Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb, et dans quelques instants on va vous parler de polar, on va vous parler de manga, on va vous parler de complot et d'autres trucs. Mais tout d'abord, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images du manga, du comics et de la BD franco-belge. Seb au micro, on est là pendant une heure ensemble et j'espère qu'on va passer un bon moment. En tout cas, on va tout faire pour. Je ne suis pas tout seul, je pense qu'on n'a jamais eu autant de monde dans le studio. Je suis en compagnie de l'indétrônable Luc.
Hello.
Je suis également en compagnie du plus facilement détrônable Fabien.
Salut à tous.
Je suis également en compagnie de Nolwenn.
Bonsoir.
Et en compagnie de Richard.
Bonsoir.
Qui partage son micro avec Garance.
Moi, bonsoir.
Moi, bonsoir. Fabuleux. J'arrive pas à me connecter au wifi du studio. Bon.
Mais du coup, c'est qui le monsieur en face de moi ?
C'est Luc.
C'est Luc ?
Mais oui.
C'est le même que l'autre fois.
C'est le monsieur, voilà, qui lit des trucs où il n'y a pas d'image.
Oui. Qui lit pas des mangas. En fait, qui ne lit pas des mangas. Voilà. Qui essaye.
Qui essaye, ouais. Au moins, il fait des efforts là-dessus. Ça, ouais. C'est sûr que ça peut... Ça peut ne pas... Je n'ai même plus parlé. C'est infernal, ouais. Ce soir.
Connecte-toi et parle.
Voilà, je parle. Du coup, on a plein de choses. On va essayer de tout faire rentrer dans les cases, puisque c'est un petit peu le concept de l'émission. J'ai dispatché des petits textes à tout le monde, sauf... celui-là, du coup, c'est moi qui le garde. Non, c'est Garance qui le garde. Hop, cadeau. Voilà, c'est les joies du direct avec beaucoup de monde. On est obligé de se caler. Ce soir, je vais avoir une émission qui va plutôt être passée sur le principe de la jeunesse. Et du coup, j'ai sous-traité un petit peu une chronique, puisque je l'ai passée à ma fille. Et c'est un petit peu particulier, mais je vais laisser Garance expliquer. Tiens, mets-toi bien devant ton micro. Vas-y, c'est à toi.
Mercredi, avec papa, on a été au cinéma Pathé Angers pour la sortie de Spike's Family Code White.
Alors ça, c'est dans le cadre d'un partenariat entre la radio et le cinéma.
C'est un film que j'attendais depuis pas mal de temps.
Du coup, j'ai été un super papa et je t'ai proposé de venir voir le film. En échange, par contre, tu me faisais une chronique.
Oui, et je me suis rendu compte que ça demandait du travail.
Eh oui, faire une chronique, c'est pas toujours simple.
Alors, avant de parler du film, on va faire un résumé du manga dont il est issu. Donc, Spike's Family, c'est un manga de Tatsuya Endo et c'est publié chez Kurokawa. Ça se passe dans un monde où il y a beaucoup de tensions entre deux pays et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'une guerre se déclenche.
Dans le manga, on a pas mal d'indices qui laissent penser qu'on parle d'une sorte d'Allemagne divisée, mais dans les années 60.
Le personnage principal, c'est Twilight, un espion qui va devoir fonder une famille pour une mission. Il va devoir infiltrer une école d'élite où seuls les meilleurs élèves peuvent accéder à des réunions spéciales. Dans ces réunions, Twilight pourra rencontrer une personne importante d'un camp d'en face. Pour créer cette famille, Twilight va devenir Lloyd Forger et faire semblant d'être une famille normale. Avec une petite fille qui s'appelle Anya, une épouse qui s'appelle Yor et un chien qui s'appelle Bond.
Une famille normale, quoi.
Sauf que Lloyd est un espion, Yor une tueuse, Anya peut lire dans les pensées et Bond voit l'avenir.
Ah ouais, donc pas en fait une famille normale.
Et comme Anya lit les pensées, elle est la seule qui connaît les secrets des autres.
Ah ok, et pourquoi c'est bien ?
C'est drôle, Anya veut aider tout le monde, mais comme elle est encore petite, elle fait plein de bêtises.
Oui, on a oublié de préciser que l'âge d'Anya n'est pas mentionné. Elle doit avoir entre 4 et 6 ans, ce qui fait qu'elle n'a pas une vraie bonne compréhension du monde des adultes.
Elle fait beaucoup de bêtises et dans ces moments-là, l'auteur lui dessine des têtes toutes bizarres et très drôles. C'est un manga qui a beaucoup d'action mais qui reste pourtant très drôle, même si les missions de Lloyd sont toujours sérieuses.
Effectivement, hein, si on... c'est les quipoquos récurrents de... et les réactions d'Anya qui font tout le sel de ce manga. Si on enlève l'humour, on se retrouve avec un manga qui tournerait vite très sombre avec des conflits géopolitiques plutôt tragiques. Et donc, ce film ?
Je voudrais d'abord parler de ses adaptations. Le manga comporte 12 tomes en français et 13 au Japon et il n'est pas fini. La série animée a 2 saisons que l'on peut voir sur Netflix et depuis la semaine dernière, un film.
Oui, mais le film du coup ?
Le film ne se passe pas dans l'histoire principale, c'est un hors-série. Je vous fais le résumé. Pour gagner une Stella, un bon point dans son école...
Fais ta prière, mon pote !
Anya va devoir faire un gâteau et pour découvrir ce gâteau, elle va aller à Frigis, d'où vient le gâteau.
J'adore !
Pendant le voyage, Anya va manger un chocolat dans lequel se trouve un microfilm très important.
Oui, pardon.
Tuez cette gamine, c'est un ordre.
Elle va alors être pourchassée par l'armée qui veut récupérer ce microfilm, d'après le chef des méchants.
La guerre est inévitable.
Tu t'es perdu dans tes feuilles ?
Oui, un peu. Et l'armée, du coup, arrive à capturer Anya.
J'ai des amis !
Et encore une fois...
Le destin du monde.
Votre mission est de récupérer le microfilm.
Repose sur ce voyage en famille.
My Family, Code White.
J'accomplirai ma mission, quel qu'en soit le prix.
Wow, et est-ce que ce film, il est bien ?
Oui, il est trop drôle, on retrouve tous les personnages, l'aventure est super, il y a beaucoup d'action. C'est super beau, on ne s'ennuie pas du tout.
Alors je suis complètement d'accord, c'est un film qui est très bien équilibré entre humour, action, émotion, et je confirme qu'on ne s'ennuie pas un seul instant. Ce que je trouve encore plus génial, c'est qu'il a été suffisamment bien écrit pour plaire aussi bien aux fans de la série qu'aux gens qui découvrent l'univers Spy X Family. On pourrait retrouver dans le public tous les fans de films d'action ou d'espionnage, tellement ces éléments fonctionnent bien au cœur du film, même en solo. C'est un film global qui s'inscrit bien dans la saga, mais qui ne gênera pas ceux qui n'ont pas toutes les références, surtout grâce à une introduction slash résumé très efficace. Visuellement, on en prend plein la vue, les scènes d'action sont très rythmées, lisibles, avec beaucoup d'impact, c'est vraiment cool.
Et comme on l'a vu en 4DX, c'était encore plus cool.
Eh bien, je vous invite donc à aller découvrir Spy X Family Code White au cinéma pendant qu'il est encore disponible auprès de notre partenaire.
Trop bien!
Et ben voilà.
Oh là là, et là, attends, avec des chroniqueurs comme ça à ce niveau-là, là, Garance, tu mets la barre bien trop haut pour nous, hein.
Je suis pas sûr de revenir, moi.
Et ben du coup, Fabien, à ton tour.
Ok. Oh là là, ça va être dur après, hein.
Est-ce que. Allez, je t'envoie ton générique.
C'est parti.
Kaizoku-oni! Ore wa naru!
Nani? お前はもう死んでいる。
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Escale à Yokohama. C'est une série en 14 tomes qui vient tout juste de se terminer en France. Et du coup, qui est sortie au Japon en 1994 et le début de la publication en 2021 chez nous. Nous avons au dessin et au scénario Ashinano Itochi. Et c'est édité chez Meian.
Donc, okay.
Escale à Yokohama, en fait, on va suivre le quotidien de la belle Alpha dans un Japon qui semble être post-apocalyptique. Même si ça, c'est un peu anecdotique, on s'en rend compte par des petites touches, parce qu'on voit que les eaux sont montées, qu'il y a plein de choses qui sont dégradées. Mais ça reste dans un coin comme ça, mais tout a l'air quand même très paisible. On est dans un monde qui semble calme, en paix. Et du coup, Alpha tient un petit café à l'écart de la ville. Le temps s'y écoule paisiblement, comme si plus rien n'avait d'importance. Entre deux approvisionnements à Yokohama, elle observe le monde, regarde le soleil se lever, puis se coucher, profite du temps qui passe, avec les rares clients qu'elle a, parce qu'elle en a très peu en fait. Il y a vraiment, on a l'impression qu'il n'y a plus énormément de monde dans, qui vit en tout cas par chez elle. Et pour le coup, malgré les apparences, en fait, on va vite se rendre compte qu'Alpha est un robot, même si elle a tous les traits d'une femme belle et classique. Mais ça fait du coup très longtemps a priori qu'elle est là. Jour après jour, elle attend patiemment le retour de son maître, en jouissant tranquillement de la vie qui lui a été offerte. Donc ça, c'est le résumé tout simple, tout basique en fait, mais pour moi, Escalier Yukoma, ça fait partie en fait de ces titres très feel-good. En fait, on va s'évader dans un quotidien simple, paisible, rempli de douceur. C'est un de ces mangas où certains diront qu'il ne se passe rien. En effet, hein, on est très loin des gros blockbusters, survitaminés, plein d'action. Mais bien au contraire, ce sont tous ces petits riens du quotidien qui font de ce manga un petit bonbon qu'on apprécie énormément. On va se retrouver aux côtés d'Alpha à contempler un magnifique coucher de soleil, la voir jouer de son instrument favori qui est le lute-lune, la voir avec les personnages secondaires autour d'elle qui vivent leur vie aussi, dans ce monde qui semble en fait au ralenti presque, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est tous ces petits instants du quotidien de bonheur ou de tristesse de temps en temps, d'émotion en fait qu'on va suivre avec elle. C'est vraiment une lecture douce, apaisante et bienveillante.
En plus, c'est cool ça.
Ouais, c'est vraiment très cool. Moi, c'est... En plus, je l'ai lu à un bon moment parce que je venais de finir une lecture très sombre, hyper violente, qui était Sido, donc au niveau du Shinsengumi avec les samouraïs et tout, où là, bah, ça envoyait vraiment très lourd. Et du coup, bah, là, on est apaisé. Les dessins sont réalistes, au très fin et clair. En fait, ils collent parfaitement à l'ambiance générale. C'est vraiment des petits aplats, c'est pas fouillis, les cases sont... Ouais, sont claires. Et du coup, ça fait vraiment un moment de détente. C'est très agréable et ça vaut vraiment le coup d'être découvert. J'adore me plonger dans cette série et du coup, ces petites touches comme ça font qu'on en ressort avec le sourire et l'impression d'être apaisé. Vraiment, c'est très, très chill.
Ça, c'est cool, ça.
Ouais.
C'est des mangas qu'on sous-estime souvent parce qu'en fait, on se dit « Ouais, mais il va pas se passer grand-chose. »
Bah, c'est exactement ça. C'est tout ce qui est un peu dans la tranche de vie. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, il se passe rien. » En fait, il se passe plein de choses. Alors, c'est pas de l'action, c'est pas des choses, mais c'est des petites touches comme ça, d'émotions, de quotidien qui font que bah, on en sort apaisé et ça change des autres lectures. Donc, c'est sympa d'alterner et du coup, j'aime beaucoup.
Écoute, j'ai l'impression que c'est un peu ton rayon, ce genre de choses un peu feel good.
Oui, j'aime beaucoup.
C'est pas la première fois que tu.
Non, ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime beaucoup ça. Mais à côté de ça, j'adore aussi la lecture que j'ai eue juste avant Sido sur les samouraïs.
C'était moins tranquille.
Ah, beaucoup moins là. Vraiment, en plus, j'ai déjà parlé de cet auteur-là avec Détonation une fois. C'était le même auteur, très très sombre, très violent. Et donc pour le coup là, c'est bien parce que ça fait redescendre un peu la pression avec ces petites histoires. Et en plus, ça peut être lu, on n'est pas obligé de lire les 14 tomes d'un coup, parce que c'est plein de petites histoires du quotidien, donc on peut se dire, bah tiens, là, j'ai un petit moment, j'ai envie d'être posé, je m'assois, je prends un petit thé ou une petite bière au soleil, ah, c'est une lecture qui va très bien, je trouve,
Qu'on pourrait prendre un tome au hasard? Ou est-ce qu'il y a une trame quand même à suivre?
Eh ben, pour l'instant, je la dégage pas trop, la trame. Alors, on revoit des personnages au fur et à mesure quand même, secondaires et tout, qui reviennent, donc on suit quand même leur évolution, entre guillemets, dans leur relation. Donc c'est quand même mieux de le lire dès le départ. Mais c'est vrai que je pense qu'on ne serait pas complètement décontenancé à lire un tome qui ne serait pas forcément dans l'ordre.
Ok. Bon, bah expérimenter en tout cas. Ouais. Tu peux juste redonner... Ah, j'ai pu parler. Les différents éléments, s'il te plaît.
Ouais, c'est Escala Yokohama. C'est de Ashinano Hitoshi. Et c'est aux éditions Meiyan, en 14 tomes.
Ok, super. Merci Fabien. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. C'est Garance qui a choisi ce soir. On part avec Ado et le titre. Eh ben, elle a pas de micro.
C'est Kura Kura.
Et pourquoi c'est ce titre-là?
Parce que c'est un opening de Spike Family.
Et voilà, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Quelle saison!
Say la lula. てたように、のべつ幕なしに異常事態、大抵わけもない、正しい間違いが不安定で、裏返しの本音が溜まってゆく、消化する術がないことも気づかずに立ち向かうの、悲しくでもないけどこんなんじゃまだ 100% は分からない、ファンなど消してしまえたらいいと願って望んでる、翻ったなら手に沿っと現実揺らぐんだ、身一つで生き抜いた土砂降りに固まる不平不満、逆行する世界もたまに味方となって、正義と正義に抗うの、サイコロ振っても平行線、どうしてなんですか今ドラマみたいに、負けかないのだろう、冴えないチョークで笑えたあの頃のように、特別はいつも目の前にある、大抵わけもない日常、寂しい言葉がフラッシュバックしてる、泣いてしまえたら楽、
ラディオ G
Just wanna tell you
101.5 FM. Allez, on retourne à l'antenne pendant qu'on est en train de discuter des génériques qui sont passés en même temps. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Ado avec Kula Kula, qui est un des génériques de Space Family. Je me permets. Plus de tête, moi. Bref. On sait plus trop comment on parle.
Ressaisis-toi,
Je reprends. Ouais, mais c'est parce que ce qui arrive est atroce.
Non, c'est pas possible.
Comme ce soir, c'est plutôt dédié à la jeunesse, j'ai décidé de confier une chronique à deux amis de ma fille. J'ai nommé Timmy et Magali.
Eh ben, écoute, ils sont où?
On les a pas vus. Hein.
Timmy? Magali? Oh, les enfants? Mais Timmy, qu'est-ce que tu fais caché dans le four?
Eh ben, c'est Magali qui m'a dit de...
Quoi?
Oui, et mais Timmy, il est comme le pain.
Pardon?
Il est perdu.
Ok, Seb, ressaisis-toi, ça va le faire. Et pourquoi cette blague?
C'est par rapport au thème de la BD.
La BD. Allez, avant de reprendre, on va dire bonjour aux éditeurs.
Bonjour, les Wiggers.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, Timmy, tu veux commencer à parler de la BD?
D'accord. Alors, c'est l'histoire d'un groupe d'orphelins.
Attends. On présente d'abord l'album.
Non. Alors, c'est un retour à Neverland de Tom Taylor et John Somariva, publié chez Dupuis. Alors, c'est l'histoire d'un groupe d'orphelins, mais ils sont pas tristes parce qu'ils sont ensemble et que ça fait presque une famille. Et un jour, il y a un autre enfant et il y a une fille qui leur dit qu'ils vont les emmener dans un autre endroit pour avoir une meilleure vie.
Dans le four.
Magali, laisse parler ton frère, s'il te plaît. Vas-y, Timmy.
Dans le four. Non. Alors, les enfants, ils se retrouvent dans le pays imaginaire. C'est toujours pas dans le four. Là où, normalement, il y a plein d'autres enfants et Peter Pan, sauf que, ils sont pas là.
C'est normal, ils sont dans le four.
Non. Magali, ça suffit. Si tu veux parler, prends la parole tout de suite, Magali.
Il faut sauver l'arbre du pays imaginaire des pirates qui volent à cause des trucs qu'ils ont piqués dans l'arbre parce que Peter il est plus là et puis les enfants ils sont tous morts. Du coup, il faut que les enfants tout neufs, il y a un vieux bizarre aussi avec un croco chelou qui donne des conseils. Et à un moment, il y a de la bagarre. Mais avant, les enfants ils ont des costumes magiques. Il y en a un qui est un lézard et l'autre c'est un ninja trop cool. J'ai oublié, mais il y a aussi la fée Courgette, elle est un peu punk et puis elle dit plein de gros mots comme.
Stop, pas de gros mots. Et prends le temps de respirer. Bon, je crois qu'on comprend ce qui se passe. Est-ce que c'est un livre qui vous a plu, Timmy?
C'est une histoire super. Il y a plein de personnages cool et on a vraiment envie qu'ils gagnent. Il y a aussi des moments tristes, des fois...
Il y a de la bagarre. Et puis les personnages, ils ont des costumes, ils ont la classe. Et puis les méchants aussi. Waouh. Timmy, faut pas pleurer.
C'est à toi, Timmy.
Faut pas pleurer. Timmy. Timmy,
ça me rappelle qu'on a lu des bouts de Peter Pan à l'école, sauf que ça se passe après, même que les mêmes personnes, c'est pas les mêmes personnes qui ont écrit les livres.
Ouais, ouais, mais là, c'est moins nul, parce qu'il y a des images, et c'est trop beau, puis il y a des décors, et on se croirait dedans, mais dedans, en vrai. En vrai.
Ok.
Dedans, en vrai.
Et il y a des choses qui vous ont plu dans l'album ?
Ben oui, parce que parfois, il y a des moments tristes, mais ça dure pas longtemps, alors ça nous a fait sentir comme les personnages.
Le crocodile, il mange personne, mais il y a pas assez de gros mots. Et puis, il y a pas assez de bagarres.
Rien d'autre, Magali ?
Non, ça va, le reste, c'est bien, mais il y a pas assez de gros mots.
Il ouais, n'y a pas assez de bagarre.
Non.
Merci les enfants pour cette chronique.
Il n'y a pas assez de gros mots.
Non.
Mais merci les enfants pour cette chronique.
T'as oublié de redire de quoi on parlait.
Ah oui, tout
on
à fait.
On parle de quoi? On parle.
Je te laisse faire.
Bah, on parlait de Retour à Neverland de Tom Taylor et John Somariva. C'est Dupuis qui a fait le livre.
Merci Timmy. Merci Magali. Je vous laisse rentrer chez vous et on se retrouve dans 15 jours.
Oui, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend.
Oh, le faillou hey. En plus, on n'a même pas de jingle.
Laisse-moi tranquille.
Allez, je vous en fais un jingle pour la prochaine chronique. Et bonsoir à vos parents.
Au revoir, capitaine.
Au revoir, capitaine.
Au revoir, au revoir.
Attends, ils sont tout le temps comme ça?
Oui.
Je pense que là, ils étaient plutôt calmes. Hein.
Non.
Ah bah écoute, ça promet.
Lâche-moi mes cheveux.
C'est fini. Voilà.
Bien, ben.
On expérimente des choses.
C'est la case de Seb en théâtre. C'est nouveau, hein? C'est.
Je suis toujours là!
Ça va finir en garderie.
Voilà, on essaie de varier un petit peu les choses, on essaie de voir, d'expérimenter de nouvelles choses. Dites-nous, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez toujours nous envoyer des messages dans le chat.
Dédicace à maman 2.
Voilà, Seb, t'es allé chercher les deux enfants qui étaient au fond de la cave de Radio G, et voilà ce que ça donne. Ouais. Faut leur faire montrer un peu la lumière, et puis le ciel bleu de un peu plus souvent quand même. Hein.
Ouais, enfin, bah, ils ont besoin de serrer le cerveau.
Ouais.
Parce qu'il y a pas mal de courant d'air, je pense, là-dedans. Allez, on va partir vers quelque chose de beaucoup plus sérieux avec Luc. Donc du coup, on va repartir sur un jingle. Est-ce que tu es prêt, Luc ?
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux enfants aussi. Hein.
Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Voilà. Et puis il y a Jiggle, t'as vu? Wow, chanceux.
J'attendais ces observations. Mais les enfants, c'est pas une chronique qui est forcément pour vous. C'est un peu sérieux, c'est pas grave. C'est pas une chronique qui est forcément pour les enfants. D'abord, c'est une uchronie. C'est un album qui s'appelle Nouvelle Chine, qui est signé Clark. Et puisque je vais parler d'Uchronie, pour que les choses soient claires, je dois faire appel à votre imagination, les enfants. Imaginez que la Deuxième Guerre mondiale a bien eu lieu, mais qu'elle ne s'est pas terminée tout à fait comme nous le connaissons. Bon, vous allez me dire que on vous a déjà fait le coup avec Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, et vous aurez raison. Alors, allons un peu plus loin. Imaginez que ce n'est pas Hitler qui a gagné cette guerre, mais que c'est la Chine qui est sortie victorieuse et qui a colonisé l'Allemagne. Ça, c'est le cadre de Nouvelle Chine, une Allemagne en 1975 que les Chinois ont envahie, qui vit sous le régime maoïste et qui doit suivre les préceptes du Petit Livre Rouge.
Ok, alors désolé les auditeurs, j'avais parlé de polar. Luc, tu m'avais pas prévenu que tu changeais de thème et que tu te lançais dans la BD de SF. Hein.
Patience, Seb, patience. Tu vas voir, dans cette Allemagne, en plein Berlin, un tueur frappe. Le Tiergartenmetzger, autrement dit le boucher du Tiergarten. Ce meurtrier, il découpe ses victimes et répartit leurs organes autour du corps. C'est l'inspecteur Victor Eberhardt qui est en charge de l'enquête, un inspecteur usé, comme il se doit, vivant seul, dont la fille s'est écartée de lui au point qu'il ne sait plus rien d'elle et qui boit du whisky. Mais surtout qui est obsédé par ses meurtres. Il veut aller au bout de l'enquête, mais cela n'avance pas, surtout qu'il n'a pas de moyens et qu'il est en permanence sous la coupe de la police politique chinoise. Enfin, on le dote d'un jeune assistant, Matthias Schneider, un novice de première qui est admiratif de Victor Eberhardt, mais qui n'en a cure. Alors, le novice, comme il se doit, on est réduit à faire le café. L'inspecteur Eberhardt n'a aucune piste. Les meurtres sont inexplicables, il n'y a aucun lien entre les victimes. il en est réduit à attendre le prochain crime du Tiergarten Metzger. Et comme il se doit, l'alerte est donnée, un nouveau corps est trouvé, Eberhard s'y précipite, Matthias Schneider sur les talons. Il faut faire vite, avant que les Chinois ne surgissent et ne lui mettent des bâtons dans les roues. Il a juste le temps d'observer la scène de crime, de fouiller le sac de la victime et de s'emparer discrètement d'une photo. Grâce à elle, il va l'identifier et partir sur la piste de son petit ami, un jeune étudiant chinois. Mais la surprise va venir d'une analyse qu'il réussit à faire à partir de toutes les scènes de crime. Il comprend la signification du dépeçage méthodique des victimes et la résolution de l'affaire dépasse et de très loin le simple fait divers.
Allez, raconte-nous maintenant que tu nous as tout à l'échelle là.
Eh, tu me prends pour qui, Seb, un vulgaire divulgateur? Non. Plus sérieusement, voilà un album dont tous les éléments sont en concordance. L'angle de l'Uchronie, les rivalités entre les habitants locaux et l'occupant, la traque du meurtrier en série. Ce que l'on peut rajouter pour éclairer le contexte, c'est qu'une pandémie mondiale a eu lieu, le Chuaran. Cette pandémie ne touche pas les populations asiatiques, que les Chinois ont découvert le vaccin, le Bingdu, et que ce vaccin doit être pris hebdomadairement. Enfin, dans cette société sous contrôle chinois, on se drogue avec du pervitin, la drogue mise au point en Allemagne en 1937 et que les nazis ont utilisée pour doper les soldats.
C'est vrai cette affaire de pervitin ?
C'est tout à fait authentique, mais le sommet de cet album, c'est la totale concordance entre l'ensemble des éléments scénaristiques et le dessin. Clark, à mes yeux, touche au génie. Si la couverture est percutante, une porte de Brandebourg sur fond de drapeau chinois, l'intérieur de l'album est tout de noir et blanc. Vraiment du noir et blanc. Pas une pointe de gris. Et ça claque. Cela donne des images simples, au trait, ou alors des images saturées d'aplats de noir pour ne laisser que des silhouettes. Le dessin est totalement figuratif. Les têtes de chapitre, particulièrement, sont de véritables hommages à la ville de Berlin. Ce dessin au trait lui permet aussi de représenter des personnages crédibles. Mais Clark suit son fil. Il ne perd pas de vue son Uchronie. Aussi, cette ville est envahie d'affiches chinoises. Les panneaux de rue sont doublés en idéogrammes chinois. Le portrait de Mao est partout. Les chromos à la gloire du peuple s'étalent, y compris dans le métro. Par opposition sociétale évidente, les murs sont tagués de slogans. Chinois dehors, Freiheit, liberté en allemand, Berlin, résistance. Tout particulièrement dans le quartier de Friedrichshain. Clark recompose un environnement qui nous est familier à nous, Français, puisqu'il fait partie de notre imaginaire collectif de la France occupée par les nazis. Cet album est d'une totale homogénéité, le scénario justifie le graphisme et réciproquement. Vous l'avez compris, encore une fois, cet album, Nouvelle Chine, qui parodie le nom de l'agence de presse officielle du gouvernement de la République populaire de Chine, montre que la BD est une affaire sérieuse. C'est vrai, Clark n'est pas un néophyte. Il s'est frotté au dessin plutôt humoristique, avec la série Mister President, par exemple, édité au Lombard, et il a travaillé avec des scénaristes comme François Gilson ou Denis Lapierre. C'est peu dire. Depuis pas mal d'années, il s'engage dans une veine plus réaliste avec des albums comme Luna Almaden, dans la collection Air Libre, ou Nocturne, dans la collection Signée. Dans toute la galaxie de l'édition de BD, il y a le groupe Delcourt, dont dépend la maison d'édition Soleil et la maison d'édition Cadran, chez qui est édité ce superbe album, ce génial Nouvelle Chine, dont je ne peux que recommander la lecture.
Eh ben, je vois pas quoi ajouter de plus, hein. Non. Si ça vous a pas donné envie, je sais pas, changer station. Non, restez. Mais, non, vraiment,
Non, c'est un album, à mes yeux, éblouissant.
Fabuleux. Je ne vois pas quoi dire de plus.
Eh ben, tu dis rien de plus.
Je dis rien de plus, à part que peut-être la thématique de l'album dont je parlais tout à l'heure va faire un petit peu écho à ça.
Ah oui, mais ça,
pas tout à fait.
C'est les grands esprits se rendent compte, voilà. Et la semaine prochaine, hein, je parlerai
de quoi tu parles.
D'un docu-polar.
Docu-polar.
Voilà, La Traque. C'est en fait une BD sur l'affaire du pont de Ligonnès. Voilà.
Ok.
Donc, je vous connais, c'est un copain. On est montés tous les deux. C'était un génie des terrasses. Génie incompris, mais génie des terrasses quand même.
Garde tes blagues pour la semaine dans 15 jours. Allez, je propose qu'on se refasse une petite pause musicale. On va se faire une autre pause musicale choisie par Garance. Est-ce que tu veux l'annoncer, ma puce ?
Mais avec un micro.
Avec un micro. Tu te rappelles, pas, ça s'appelle Soul Soap et c'est Official Iggy Dandisme. T'as juste à répéter, en fait.
C'est Soul Soap, Official...
Iggy Dandisme.
Iggy Dandisme.
Allez, et c'est la musique officielle, en fait, du film Spy X Family Code White.
G, 101.5 FM. Walking in the midnight
sun. Vous êtes de retour sur
101.5.
Ouais, on a déchaîné des monstres.
Ouais, des...
On va essayer de les confiner une fois de temps en temps, les sortir pour qu'ils voient un peu la lumière du jour.
On va peut-être les laisser en fait.
Les laisser sortis ?
Non, du coup. Rentrer.
Allez, rentrer. Ah, ça pourrait être rigolo de les laisser sur une autre émission.
Comme tu veux.
On peut les oublier dans le studio, c'est possible. Mmh. C'est possible.
Je prends l'idée. Donc vous êtes toujours dans la case de Seb, c'est toujours Seb au micro, je suis toujours en compagnie de Luc, Fabien, Richard, Garance et Nolwenn, et tout le monde va toujours très bien. Il fait un peu beau, mais il fait froid dehors, c'est pas cool.
Là tu cherches à meubler, ça s'entend.
Ouais. Un petit
tu veux
peu.
Pas nous faire un petit peu la météo?
Non. Là je vais vous parler de comics, un comics qui s'appelle The Department of Truth, de James Tynion on the Force et de Martin Simmons, publié chez Urban Comics dans la collection Indies. Alors dans le studio, vous remarquez qu'il y a un espèce de gros sticker rouge dessus. Je tiens juste à souligner que l'album que j'ai présenté, c'est pas une nouveauté, mais qu'il est possible de le trouver au prix modique de 10€ en ce moment, puisque les éditions Urban célèbrent les 10 ans de la collection Indies avec la réédition de certains albums, dont une couverture inédite faite spécialement pour l'occasion, au prix de 10€, et c'est l'occasion de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas avant. Ce qui est mon cas avec ce Department of Truth, que je suis complètement effaré, en fait, de ne pas avoir découvert pendant sa sortie. Je vais commencer cette chronique avec une petite question. Chers auditeurs et camarades dans le studio, est-ce que vous croyez à une ou plusieurs théories du complot ?
Oui.
Tu veux laquelle ?
Oui.
Franchement, parce que moi j'ai celle avec les pattes, j'ai celle avec les lézards, j'ai celle avec les triangles, il y en a plein. Hein.
Ok, ouais. Il y en a plein.
Bah, moi j'en connais, voilà, je peux laisser la parole aux autres.
Je pense, je suis même intimement convaincu qu'il y a des théories du complot, il y en a plusieurs, oui. La Terre est plate ?
Non, elle est... Non, en fait, c'est un bol. Okay.
C'est une pizza.
La mer est au centre.
Mais regardez Astérix et les Indiens, c'est une pizza.
Wow, je pensais pas partir. Fabien, t'as une théorie du complot.
Je sais plus quoi dire.
Ma mère, on a parlé une d'il y a... Attends, il y a pas longtemps. Il y en a une comme quoi, attention. C'est cocorico, hein. Comme quoi, l'État français et les fonctionnaires...
Oui.
Te vole ton identité à la naissance.
Mmh, bien sûr.
Pour que tu rentres dans un moule. Mmh. Et que chaque fois que tu fasses une action, ce soit fliqué. Cela pour le compte de l'Amérique.
Oh là. Bah oui.
Donc avis à tous les fonctionnaires. Ouais. Vous faites partie de la théorie. Je fais partie de la théorie du complot.
Ah là.
Voilà. Donc, ouais.
Moi, j'en étais resté au stade de la puce qu'on nous injectait avec le vaccin du Covid. Hein.
Tout à fait.
Moi, je pense que les corps vidés ont fait en sorte que Christophe Béchu ne soit plus le maire de la ville d'Angers.
Elle n'est pas ouf, sa théorie du complot. Elle est restreinte à la ville d'Angers, en fait.
Bah oui, mais c'est une toute petite théorie.
Ça reste une théorie du complot.
C'est une théorie Arial Police 8.
Eh ben, vous allez voir...
Ah, t'as cru que t'étais une comique sans MS.
Mon Dieu.
Tu les as libérés.
Je... Garance, je suis vraiment désolé de t'avoir installé là ce soir.
Comment tu vas enchaîner après ? C'est ça qui me...
Eh bien, vous allez voir que je vais être super bon, je pense. De mon côté, moi, je suis plutôt terre à terre. Je me penche sur le consensus scientifique. J'ai une lecture qui m'a bousculé avec The Department of Truth. Et ça montre aussi que toutes ces petites théories du complot, plus ou moins grandes, elles peuvent avoir des fonds intéressants. Je vous raconte rapidement. Cole, c'est un professeur avec une rigueur plutôt scientifique qui travaille pour le FBI. Mais un jour, alors qu'il infiltrait un congrès de platistes, en fait son job, pour vous détailler un petit peu, il va collecter des rumeurs sur Internet, et puis il les signale au FBI pour dire, ça c'est des potentiels complots, donc il infiltre parfois des trucs pour avoir des gens à balancer. Et alors qu'il a infiltré un congrès de platistes, j'adore ce terme congrès de platistes, il va faire deux découvertes. On va lui apporter deux preuves. La première, c'est que l'alunissage d'Armstrong a bien été tourné en studio. Et la deuxième, c'est que la planète Terre est bien close par un immense mur de glace. Et on va pas lui dire, tiens, regarde, ça montre qu'on a raison. On va lui donner les preuves et c'est lui qui va faire ses déductions. Il est en train de regarder une vidéo il se rend compte que l'alunissage qu'on lui présente, c'est pas tout à fait le même angle de caméra que d'habitude. Et puis surtout que dans le fond, dans l'ombre, on voit un type qui est en train de fumer sa clope avec un mug. Et là, dans sa tête, ça va pas. Ses convictions, elles sont vraiment ébranlées. Et lors de ce moment de confusion, il va se faire recruter par un organisme secret qui veut lui exposer une théorie encore plus folle que celle qu'on vient d'imaginer dans le studio et que toutes celles qu'on peut avoir imaginées. Avant, il y avait une relance, mais c'est pas grave, chacun bouffe ses relances.
Non, mais c'est moi, je suis accroché.
On était trop pris par...
On est pendu à
que de suspense.
Voilà, à ta barre, pardon.
Oui, voilà. Que de suspense.
J'ai
que
mis
de
telle
suspense.
Ambiance que tout le monde a perdu.
Non, mais on est...
cette théorie, elle est super simple. Et si il suffisait qu'un nombre suffisant de personnes croient en une théorie pour que nous puissions avoir des preuves que cette théorie est vraie?
Non, mais c'est dingue, ça.
Et ouais. Et ce qui est encore plus dingue, c'est d'imaginer remettre en cause tout ce que nous pouvons tenir pour acquis simplement parce que la croyance d'un groupe est assez forte pour remettre en cause même la réalité.
Écoute, j'ai déjà des nœuds dans le cerveau là. Hein.
Le concept est fort. Comment ne pas avoir mal au crâne en imaginant des hommes en noir qui font en sorte de faire disparaître des traces d'éventuelles preuves de l'existence d'une organisation gouvernementale qui emploierait des agents habillés en noir pour faire disparaître des traces de preuves de contact extraterrestre.
Waouh, mise en abîme vertigineuse, hein.
Et les réflexions de l'auteur vont plus loin, puisque Cole va se faire recruter par cette organisation et va donc rencontrer des personnes vivant un drame beaucoup plus intense que cela. Une femme, par exemple, dont le fils a été tué lors d'une fusillade à son école. Elle est inconsolable. Elle se passe régulièrement le dernier message que son fils a laissé sur son répondeur pendant la fusillade. Un message qu'elle n'a pas pu décrocher. Donc elle s'en veut déjà beaucoup. Et puis elle a fait longtemps face aux complotistes qui avisent que cette fusillade n'a jamais eu lieu. Que elle et son fils sont des acteurs payés par le gouvernement pour mettre en abîme tout ça.
Oui, c'est difficile, je pense, à vivre effectivement cette situation-là, ouais.
Imagine la difficulté de vivre ça quand tu reçois par la poste une clé USB qui contient la vidéo du casting de ton fils. Ta propre vie, tes propres certitudes volent en éclats et ça va te mener au bord de la folie. Ce sont les grandes questions que traite James Tynion on the Force, qui permet aussi de mettre en parallèle le fonctionnement de ceux qui croient en ces différentes théories. De se mettre un peu dans leur cheminement de pensée, pas aussi manichéen qu'on voudrait le supposer de prime abord. Ils sont pas idiots, hein. Ils sont pris dans des biais de confirmation que leur cerveau ne veut pas les laisser se défaire.
On croirait un essai scientifique, mais graphiquement c'est bien ou pas?
Moi perso, je trouve ça vraiment excellent. Le dessin est parfaitement adapté au sujet, avec des images qui ont beaucoup de matière, des coups de crayon, des effets lumineux, qui donnent une atmosphère poisseuse où l'on devine des choses cachées dans chacun des recoins des cases. D'ailleurs, de nombreuses symboliques sont plus ou moins dissimulées dans l'ouvrage. Les yeux de Cole, les héros par exemple, sont presque toujours masqués par un reflet sur ses lunettes, comme s'ils refusaient de voir la vérité qui est pourtant devant lui. À certains moments, la lecture elle est répartie sur une double page. Pas une splash page, c'est pas juste un dessin qui va parcourir l'image, c'est vraiment des cases qui sont réparties sur toute la page. Et ça invite le lecteur à s'interroger sur le sens, je fais des guillemets avec les doigts, de sa lecture. Dans quel ordre les choses sont-elles le plus cohérentes? Puis c'est peut-être moi ou l'influence de l'auteur qui m'a dirigé, mais j'ai parfois vu plusieurs lectures et plusieurs angles de lecture.
Ça a l'air terriblement complexe, hein?
Ouais, c'est une lecture qui est plutôt exigeante. Et moi j'invite à lire chaque tome de façon indépendante, vous pouvez laisser du temps entre chaque, et puis après tout relire d'une traite pour peut-être comprendre certaines choses différemment. Alors sachant que si la série elle est close aux US, le cinquième et dernier tome n'est pas encore disponible en version française. Donc ce sera aussi l'occasion d'en reparler quand ça sortira, ce sera clos. Donc ça c'était The Department of Truth de James Tynion on the Force et Martin Simmons, publié chez Urban Comics dans la collection Indies.
Tu vois, tu nous disais que l'émission a été dominante, jeune public et autres, non? C'est impressionnant. Enfin, cet album semble impressionnant. En tout cas, les graphismes sont puissant. Ça rappelle un peu. J'avais parlé d'un Batman précédemment. Et ça rappelle
Batman
un peu
Day One, c'est ça. Hein.
Voilà, c'est ça, le Batman Day One. Et je trouve qu'on retrouve un peu cette des graphismes un peu crades, un peu sales, un peu baveux. Mais c'est super. Hein. En tout cas, c'est vraiment super. Hein.
Ouais. Il y a tellement de choses en fait. Alors, on se base surtout sur des théories du complot américaines. Parce que les auteurs sont américains et que peut-être aussi c'est un terrain fertile. Mais ce qui est génial, c'est qu'on s'intègre vraiment dans ces croyances. Là, t'es sur une page un peu spécifique, mais Cole, par exemple, on l'intègre dans cette espèce d'organisation. On lui présente des choses et à un moment, il dit au directeur, mais du coup, je sais même pas qui vous êtes. Mmh. Et là, le directeur lui explique qui il est. Et c'est une des plus grosses théories américaines, puisqu'on est sur... mince, j'ai paumé son nom à l'instant. Sur le tireur de JFK. J'ai perdu son nom.
Lee Harvey Oswald.
Lee Harvey Oswald, qui a été recruté pour devenir le directeur d'une organisation anti-complot et tout.
C'est bien connu.
Tu vois le parallèle du truc qui est quand même assez dingue.
Mais sachant que, malgré tout, la CIA, entre autres, les Américains, entre autres, hein, les Russes, les Soviétiques savaient le faire, mais les Russes, les Américains aussi, cultivent une telle obsession du secret, des services secrets, des manipulations, que ça laisse la porte ouverte à tout, hein, de toute façon. Hein.
Bah, c'est ce qui fait qu'on a des milliers de théories différentes, et qu'il suffit juste des fois de pas grand-chose pour pouvoir en pousser une de plus. Hein.
Non, ben c'est album brillant.
Ouais, c'est vraiment très très bon. Mais pas tout public, parce que c'est quand même hyper exigeant. Et il y a plein de questionnements. Cole a ses propres interrogations, qui sont aussi peut-être des théories du complot dont il va devoir, un petit peu comme la dame avec son enregistrement, comprendre les tenants et aboutissants et peut-être arriver à s'en défaire. Donc c'est vraiment très très bon. C'est fabuleux.
Merci pour la présentation, Sam. Je suis preneur.
Eh ben, écoute, mais c'est comme tout, hein, c'est le but, c'est de partager. De quoi on va parler? Oui, j'en profite. N'hésitez pas sur cet anniversaire. En fait, il y a plein de bons titres. Il y a Something is Killing the Children, qui est vraiment cool. Il y a Little Monsters. Il y a plein de très bons titres. Il doit y avoir une dizaine de titres, en fait, dans la collection Urban Indies, qui sont à 10 balles. C'est vraiment pas grand chose pour des albums qui sont vraiment cool. Et puis, si vous les avez déjà, c'est l'occasion de compléter la collection, si vous avez une collectionnite, avec des couvertures exclusives. Voilà. Si vous les avez déjà, pas la peine, forcément, mais voilà. Les couvertures sont plutôt belles, donc ce qui est plutôt cool.
Bah, c'est des très beaux objets pour 10 euros, en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais. Mais Urban, ils font plein d'événements comme ça, avec des petites séries, des petites choses comme ça, pour découvrir. Little Monsters, dont je parlerai sans doute dans 15 jours, la couverture, elle est juste sublime. C'est de l'encre sur toile blanche, et c'est juste dingo, quoi. Enfin, Urban Comics, c'est pas grand-chose à dire de mal dessus, en général. Comme certains éditeurs. Est-ce qu'on sait de quoi on parlera la semaine prochaine? Est-ce que tu arriveras à nous faire une chronique sur Aizuken d'ici la semaine prochaine, Richard?
Je sais pas. Pour la semaine prochaine?
Non, dans 15 jours.
Oui, voilà.
Non, la semaine prochaine, c'est du JDR qu'on parle. Hein.
Oui. Je sais pas trop. Personnellement, pas beaucoup de temps, mais je peux essayer de faire quelque chose, oui.
Ok.
Je ne promets pas, je vais essayer.
Ok. Fabien, peut-être pas dans 15 jours. Alors, on l'a enregistré et on l'aura peut-être ou.
Eh ben, non. Parce que j'ai malheureusement pas eu le temps.
Oh.
Je suis désolé, j'ai préparé qu'une seule chose pour ce soir. Et du coup, ouais, j'ai un peu zappé pour dans 15 jours là.
C'est pas grave. J'aurai plein de choses, moi, de mon côté, à vous parler. Je pense qu'on pourra parler de La Princesse et le Croque-Monsieur. Qui est un truc. Le titre fait bizarre. Et,
je connaissais c'est le Croque-Mitaine, vraiment... mais le Croque-Monsieur.
C'est vraiment cool. On pourra parler peut-être aussi de Girlfriends, qui est une lecture vraiment particulière, mais vraiment sympa. Little Monsters, très probablement. On parlera peut-être, si j'ai le temps, de Suzume. Toi, tu as vu le film
Makoto Shinkai. Ouais.
Est-ce que tu as lu le roman
non,
et le manga?
Non, j'ai pas lu. J'ai seulement vu en famille. On a regardé. C'est magnifique.
Alors moi, j'ai pas vu encore.
Ça me parle Suzume.
C'est un animé qui est sorti en 2022, sauf erreur de ma part.
Ah oui, ok, oui, je l'ai vu aussi.
En film d'animation, et en fait, les éditions Pika la sortent conjointement, le roman de, qui a été développé en parallèle de, le film d'animation, film, ouais. Et le premier tome du manga.
D'accord.
Qui va. Je peux pas en parler, mais j'ai pas vu le film encore. Donc.
Ah, tu l'as pas vu?
Non.
Bah, moi, j'ai vu le film, par
ouais,
contre.
Okay.
Mais le manga, je sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, le film vaut le coup d'œil.
Ouais. Pour l'instant, j'ai lu le manga, mais pas le film.
Il y a plein de références dedans, que ce soit musical ou littéraire, mais tu verras bien.
On verra. On va découvrir tout ça.
C'est très beau, comme tous les Makoto Shinkai.
Ouais. Je m'étais fait Voice of the Distant Stars.
Alors ça me parle de nom, mais je ne connais pas. J'ai déjà entendu parler, mais je n'ai pas vu.
Bon.
Le dernier que j'ai vu là, c'est Blue Giant, que je suis allé voir au cinéma.
C'est Makoto Shinkai aussi?
Non, pas du tout. Mais là, c'est la dernière vision que j'ai eue.
Parle plus près de ton micro, t'entends pas assez.
Excuse-moi, j'étais trop loin.
Donc t'étais voir Blue Giant.
Ouais, je suis allé voir Blue Giant. Il y avait une soirée spéciale manga aux 400 coups.
C'est pas un manga sur le jazz, la musique?
Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est exceptionnel. On est embarqué du début à la fin. Les musiques sont folles. Et du coup, moi, j'y suis allé en famille. Ma femme est pas spécialement animée. Elle est ressortie conquise. Elle a adoré du début à la fin.
Attention à tes expressions. Ma femme est pas tellement animée. Enfin,
ah oui, c'est vrai.
Moi, je sais pas, mais elle pourrait.
Alors, est-ce qu'on peut
mal le prendre?
Est-ce qu'on peut reparler de Xavier?
Non. Non, je l'ai senti venir très très loin, celle-là, Richard.
En tout cas, pour ceux qui ont l'occasion, il faut le voir, ce film.
Et tu étais en famille élargie ou
ouais.
Les enfants,
ouais,
du coup, enfants. Ils font kiffer aussi?
Ouais, vraiment. Non, c'était plein d'émotions, en plus, retransmises par la musique. Vraiment très, très, très cool.
Bon. Eh ben, fabuleux. On va pas forcément... je vais mettre un petit coup de porky, là. Il y a un truc qui tourne derrière encore. Eh ben, c'est... Hop. On va y arriver. Et il est là. That's all, folks. Et oui, vous l'entendez, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Est-ce qu'on se fait un petit résumé de tout ce dont on a parlé?
Bah oui.
Allons-y.
Chacun son tour. On a parlé d'abord de
Spy X Family.
Mais plus précisément
Code White, le film de l'animé.
Super, ma puce, c'est publié aux éditions Kurokawa, 12 tomes actuellement. N'hésitez pas à aller au ciné ou à lire Spy X Family. Ensuite, nous avons parlé de Fabien.
Alors, non, on n'a pas parlé de moi, mais on a parlé de Escale à Yokohama, qui est édité chez Meian et qui est écrit par Hitoshi Ashinano.
Attention, ils vont surgir.
Ensuite, on avait...
Non, sors les pas de la cave.
Les deux garnements qui nous ont parlé de...
Attends, je cherche. Non, attends, c'est pas indiqué.
Si c'est marqué là,
ah,
regarde
c'est
en
là.
Gros.
Oh, mais, d'accord.
Mais
on a parlé
passé,
de
d'ailleurs.
Retour à Neverland de Tom Taylor et John Somariva chez Dupuis.
On a parlé aussi avec Luc.
Eh ben, on a parlé du roman graphique Nouvelle Chine de Clark, paru chez Cadran.
Et on a parlé à la fin de The Department of Truth de James Tynion IV et Martin Simmons, publié chez Urban Comics dans la collection Indies. Eh ben, on a fait une belle émission. Trop vite. Mais on a fait une belle émission. N'oubliez pas que vous pouvez discuter avec nous sur le chat en allant sur le site.
C'était au début qu'il fallait le dire.
Oui, mais on le dit, on le redit aussi le soir, comme ça.
Ouais,
si vous accédez à cette émission à la fin, vous savez que la semaine prochaine, pendant la case de Seb, de 21h à 22h, vous pourrez aussi discuter avec nous. Et puis, dans 15 jours, vous pourrez aussi discuter avec nous sur le chat. Ou simplement retrouver ce podcast sur le www.radio-g.fr dès la fin de l'émission, comme tous les super podcasts qui ont été faits dans la radio. Actuellement, si vous avez des projets, si vous souhaitez faire une émission de radio, n'hésitez pas à postuler pour remplir la grille de Radio G. On a plein de... Bon, je ne vais pas dire qu'on a plein de créneaux, parce que c'est déjà bien rempli, mais on accueille tous les projets un peu originaux. Luc, tu peux peut-être en parler un tout petit peu?
Tu viens de dire ce qu'il fallait dire. Donc, on a l'appel à projet est lancé. Il est accessible directement sur le site de Radio G. Il suffit de cliquer sur l'icône de l'appel à projet et il renvoie un formulaire qu'il suffit de remplir. Et la deadline, c'est le 31 mai prochain. Et après, on construira la grille 2024-2025.
Ben écoutez, n'hésitez pas à rejoindre Radio G, c'est une vraie pure expérience sympa, tout le monde est gentil, on vous accompagnera si vous n'avez pas les moyens techniques, si vous n'avez pas les habitudes, on est là, c'est vraiment une radio associative qui est cool.
Alors tout le monde sauf un dans l'équipe, mais je dirais pas qui.
Ça c'est petit. Yeah, ouais. C'est petit. Ce que t'as dit tout à l'heure dans le couloir, moi je trouve que c'est pas cool quand même. Hein.
Ça c'est entre nous, Luc.
De toute façon, Richard fait 1m35 donc.
Hey voilà, allez.
Allez.
Oui alors.
Bon allez, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. C'était la caisse de Seb. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de rire.
Oui aussi, c'est bien.
Très important. Non, c'était sympa de rire. On était bien là-dessus.
C'est le mantra de Seb. N'oubliez pas de rire une fois par jour, ça fait du bien.
Allez. Ah si, on voulait la faire, tu peux la tirer un petit peu en disant n'oubliez pas de sourire à quelqu'un et n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un. Voilà. Wow. Allez, on se retrouve dans 15 jours. N'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Ah ben, vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.
Radio G 101.5 FM.